Nous prenons notre fascicule, page 21. Oui, alors je l'appelle cet article de la perfection de l'écriture. Son autorité de Dieu seul et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité et contient tout ce qui est nécessaire au service de Dieu et à notre salut. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'y rien ajouter, retrancher ou changer. Il en découle que ni l'ancienneté, ni les coutumes, ni le grand nombre, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les lois, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne peuvent être opposés à cette écriture sainte. Mais au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Dans cet esprit, nous reconnaissons les trois symboles, à savoir le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, le symbole d'Athanase, parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Après avoir donné la liste des livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est ce que nous avons vu à l'article 3, après avoir, dans l'article 4, précisé que la reconnaissance de ces livres ne se fonde pas sur une décision de l'Église, mais sur le témoignage intérieur du Saint-Esprit, la confession affirme dans le présent article 5, leur autorité. Nous croyons que la parole de Dieu qui est contenue dans ces livres est procédée de Dieu, la Dieu pour origine, duquel elle prend son autorité et non des hommes. Vous voyez qu'au fond, ce n'est ici, me semble-t-il, une autre formulation de ce qui a été dit à l'article 4. On pourrait certes parler aussi d'une autorité humaine de l'Écriture sainte. Des prophètes y parlent, des apôtres aussi, et ce sont des hommes. Il y a là tout un monde très respectable, qui pourrait s'imposer comme autorité, et qui le fait. Il s'impose de soi. Moïse au Sinaï. Enfin, l'Égypte, enfin, vous voyez, tous ces gens s'imposent. Et ils le font, c'est clair. Oui, ces personnages sont très respectables. Mais, les pères de Paris, déclare, je n'ai pas cette autorité sur laquelle nous voulons insister, celle que pourrait revendiquer la personnalité de l'apôtre Paul, par exemple, ce Saul de Tarse, avec sa piété, son intelligence et son bon cœur aussi. Je n'ai pas cette autorité-là qui est l'autorité de l'Écriture. Et même, il faudrait dire davantage, si nous osions, ce n'est pas l'autorité de l'homme Jésus, Jésus de Nazareth, comme docteur et rabbi avec son enseignement et avec sa vie exemplaire, qui fait autorité. S'il y a autorité, s'il y a un pouvoir, s'il y a une dignité, c'est à cause de l'inspiration de l'esprit et de l'autorité que donne Dieu à tous ces personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, y compris bien entendu au Fils, béni soit-il. On nous dit tout bonnement dans cet article 5 que l'Écriture est inspirée. C'est gentil, mais cet article, me semble-t-il, ne répond pas à la question comment cette Écriture est-elle inspirée. Rien n'est dit ici sur le mode d'inspiration. De la manière dont Dieu s'y est pris pour que la parole, cette parole de ses prophètes, de ses apôtres, etc., cette parole puisse être dite parole de Dieu. L'attribution à Dieu des paroles émises, c'est ce que fait très hautement la confession, ne permet en rien de préjuger de la question du mode. Le principe scripturaire est indiqué, c'est de l'Écriture que nous avons que c'est l'Écriture qui donne l'autorité, parce qu'elle a Dieu pour origine, mais la relation entre parole de Dieu d'une part et Écriture n'est pas formulée. Et ceci depuis les Lumières qui ont préludé à la Révolution française, jusqu'au libéralisme du 19e siècle, et à tous les modernistes du 20e siècle, ce sont des choses qui nous tracassent, ce problème du mode d'inspiration. Cette formulation, nous croyons que la parole de Dieu qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine. Cette formulation peut rester très vague dans bien des esprits. Richard Stauffer aimait à s'appuyer sur ce texte pour dire, vous voyez, me disait-il, vous voyez donc pas, hein, le baptisme, hein, c'est contenu dans la confession de La Rochelle, hein, vous voyez, hein, et... Il n'est pas dit que la Bible est parole de Dieu, il est dit que la Bible est d'origine, a Dieu pour origine. Et c'est une formulation martienne. Donc, nos pères étaient des martiens avant la lettre. Bon, en fait, quand même, anachronisme fondamental, parce que Karl Barth est quand même un homme du 20e siècle. Alors, C'est certain que cette formule, nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine, à moins d'être un chrétien agnostique, tout peut arriver, chrétien sans guillemets, agnostique sans guillemets, bon, tout peut arriver, mais tous les théologiens modernes signent cette déclaration, mon ami. Un martien croit que Jésus a Dieu pour l'origine, un boultmanien le croit aussi. Vous voyez? Alors il y a là quelque chose qui, évidemment, pour l'orthodoxe que je suis, l'évangélique que j'aimerais être, il y a là quelque chose qui est quand même troublant parce que ce texte ne vise pas le centre de la cible, j'ose le reconnaître devant notre cher Dieu, le centre de la cible, le centre de la cible de nos préoccupations aujourd'hui, où on nous dit, bon, d'accord, Dieu a quelque chose à faire avec la Bible, c'est certain, mais comment cela se fait-il? Et est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce qu'elle devient la parole de Dieu? Est-ce qu'elle contient des choses qui sont uniquement des paroles humaines, par exemple des légendes, des mythes, des historiettes? Bon. Vous voyez, cette formulation peut rester très vague dans bien des esprits. Cela vient qu'au XVIe siècle, la doctrine de l'Écriture est universellement admise. Ça pose pas problème à quelqu'un du XVIe siècle. Les catholiques sont d'accord. Les catholiques croient tout à fait à l'inspiration et à l'autorité au fait que vraiment l'Écriture est vraiment, réellement la parole de Dieu. Tout le monde est tellement d'accord qu'on va accepter de part et d'autre que la Bible soit le juge des controverses. On va dire voilà, on va faire un débat public, il y aura les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, et l'arbitre là-dedans, ça va être la Bible. On va poser une Bible au milieu, et on va causer ensemble, et quelquefois, vous le savez, c'est pour cela que c'est une réforme en Suisse et ailleurs, quelquefois c'est l'autorité local, le prince évêque, ou bien alors les magistrats de Berne, de Lausanne d'ailleurs, qui vont dire ce que tout le monde a remarqué, c'est qui gagne par rapport à ce que la Bible dit. Et on va dire, ben voilà, ce coup-ci, ce match, ce sont les protestants qui ont gagné, ce sont les catholiques qui ont perdu. Voilà. Alors, on dira ceci. On verra ceci. Et à la limite, j'ai fait un match public comme cela avec des témoins de Jéhovah. J'ai gagné le premier match. Tout le monde l'a reconnu. Il y avait Gazan, il était complètement. J'ai dit, moi, Jéhovah était complètement réduit à néant, etc. Parce que ça a éclaté la véritable doctrine de la véritable Bible, etc. Le premier match a été gagné. Remarquez, j'ai perdu le second. C'est parce que je suis sorti de la salle quand je me suis aperçu que le Nouveau Testament grec des témoins de Jéhovah était lui-même trafiqué. Alors, j'ai dit ici maintenant, l'autorité que nous mettons ensemble nos controverses est tout à fait gangrénée, toute coucoursonnée, et bien à ce moment-là, comment voulez-vous que nous puissions discuter ensemble élégamment si on n'est pas d'accord, si vous n'êtes même pas d'accord sur le texte grec reçu, et si vous trafiquez le texte grec reçu. Je dis que vous trafiquiez dans l'interprétation, c'est une chose que je remarque, et que je peux comprendre, vous voyant, etc. Que vous trafiquiez dans la traduction, c'est regrettable, mais on dit, l'adage dit que toute traduction est une trahison. Mais maintenant que vous trafiquiez le texte lui-même, alors on ne joue plus, on s'en va. Ça veut dire, voyez-vous, on peut discuter en mettant la table, en mettant au centre de la table une Bible, et dire, voilà, c'est la Bible qui va décider entre nous. Ça, c'est le coup du XVIe siècle. La difficulté avec le XXe siècle, c'est que nous n'avons plus rien pour mettre au centre du débat, parce que il n'y a pas d'accord
minimale entre les participants.
Si la semaine prochaine, je passais à la télévision avec quelques adversaires, j'ai des carnets comme ça, des noms pour organiser le débat. La difficulté, c'est qu'on ne s'entendrait pas sur la modalité du débat parce qu'il y aurait un problème au niveau de l'autorité de l'Écriture sainte. Parce que les gens d'en face ne croiraient pas que l'Écriture sainte est parole de Dieu, divinement inspirée. Ils ne croiraient pas à la théopneustie, ils ne croiraient pas à l'inhérence de l'Écriture, le fait qu'elle ne peut errer, et ils ne croiraient pas à son infaillibilité. Voilà. Ça, c'est la difficulté de ce temps. Hein. Vous savez que les modernistes finissent par dire, bon, tel passage, nous avons autorité parce que il y a quelque erreur ici, etc., etc. Hop, on arrache la page. Tel passage, c'est des sources, etc. Hop, on arrache la page, etc. Et puis à la fin, finalement, c'est ce qui est arrivé à la fin de mes études. J'ai écouté tous mes maîtres, comme on se doit, et je me suis retrouvé avec la couverture de ma Bible. Et c'est tout. On avait arraché toutes les pages, il ne restait plus rien, et elle n'avait que l'autorité, finalement, de la couverture. Et si vous connaissez ma Bible, et si vous voyez dans quel état est la couverture de ma Bible, vous voyez ce qui reste. Discuter. On ne peut pas discuter au XXe siècle avec les ennemis de la loi parce qu'on n'a pas le document fondamental d'accord, de base. Peut-être on peut le faire avec les frères de Saint-Jean de Malte, mais on ne peut plus le faire avec les protestants modernistes du XXe siècle. Ça, c'est désagréable, mais c'est comme ça. Alors, la doctrine de l'Écriture au XVIe siècle est universellement admise. Elle ne fait pas de problème à personne, même pas les anabaptistes, les excités, tout ça, tout le monde est d'accord, on est d'accord là-dessus. On est d'accord sur la Bible. Alors, nous aimerions nous trouver dans ce texte ce qui n'y est pas, c'est-à-dire une déclaration sur les modalités de l'inspiration de la Bible. Mais il faut savoir qu'on ne définit un point de controverse, par exemple l'inhérence de la Bible, on le définit d'une manière générale, un point de doctrine, y compris d'ailleurs la Trinité, la double nature du Christ, etc., que lorsqu'une hérésie a suscité de la polémique à son propos. L'établissement des dogmes chrétiens se sont faits dans la bagarre et en réfutation de l'hérésie. On aurait pu vivre après tout de ce que nous appelons la Trinité de Dieu, sans formuler cette Trinité. Parce qu'à la Trinité, on ne la formule pas. Elle en donne le contenu de sens, mais elle n'en donne pas le mot. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais le livre de la Trinité. Sans adhérer à, je dirais, à un texte très bien dogmatique sur la Trinité, on peut en dire comme ça. Bien, c'est comme ça pour toute doctrine, y compris de la Bible. C'est lorsqu'une controverse se déclare qu'il faut prendre position. Tant que tout le monde admet la vérité en cause, point n'est besoin de la mettre noir sur blanc dans un texte. Dans un texte sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est pas nécessaire. Et c'est ainsi que l'on a pu vivre, je dirais, jusqu'à l'époque contemporaine, sans définir d'une manière très nette. Ainsi, le problème ne se pose pas à Calvin. Le problème du mode d'inspiration. Évidemment, mon maître Stoffer disait, le problème ne se pose pas à Calvin, donc Calvin n'aurait pas été d'accord avec l'inhérence de l'écriture et l'infaillibilité. parce que Calvin n'expose pas comme l'Alliance évangélique française actuelle le mode d'inspiration de l'Écriture, qui n'y croit pas. Et certes, il parle en plus d'un endroit, parlant des auteurs de l'Écriture, d'organes, d'instruments du Saint-Esprit. C'est fort. Et l'écrivain biblique, c'est l'organe du Saint-Esprit, c'est l'instrument du Saint-Esprit. Et l'écrivain biblique dit Calvin, il est la bouche de Dieu. L'écrivain biblique, il est, dit Calvin encore, l'ambassadeur de Dieu. Il est le lieutenant de Dieu. Et ces images sont si fortes qu'elles pourraient même véhiculer l'idée contraire d'une facilité humaine. C'est-à-dire que finalement, l'écrivain biblique, il n'est que singe en marionnette, c'est avant une machine, enfin. Je lève le petit doigt, et puis le petit doigt se lève, et puis bon, le singe tape à la machine, le singe marionnette tend à la machine. Il semblerait que Calvin aille lui-même par moments dans ce sens-là, alors que ceci est opposé, parce que l'on sait que c'est en se servant des hommes que Dieu a inspiré la Bible. Mais s'il n'y a pas cette idée de passivité humaine, il y a plutôt l'idée d'une soumission obéissante. C'est ainsi que Calvin est amené à parler de langue conduite par le Saint-Esprit. Et Calvin continue les images fortes. Hein. Calvin parle. Voilà, les auteurs bibliques, ce sont des greffiers de Dieu. Fortes. Les auteurs bibliques, ce sont des secrétaires. Ce 16e sermon sur le Deutéronome de Calvin dit que les écrivains sont les greffiers de la bouche de Dieu. Mais Calvin, je le reconnais devant vous, sans honte, Calvin ne porte aucune attention sur le mode d'inspiration. Le mode d'inspiration n'est pas une question qui se pose à lui. Alors que c'est la question qui se pose, que ce soit à nous et au cas où on dirait que nous avons toujours des gens qui nous la rappellent. Au-delà des hommes, pour Calvin, un seul auteur, c'est Dieu. C'est tout simple. Il y a des hommes, et au-delà d'eux, il y a un seul auteur. Calvin, voyez-vous, se refuse à dire le comment de l'inspiration. Il y a inspiration, mais il ne dit pas comment ça se passe. Et finalement, n'est-ce pas là aussi une manière calvinienne de vivre la réalité de tous les dogmes? Dans la Sainte Cène aussi, Calvin dira « le Christ est là ». Mais Calvin va se refuser à dire le comment. Calvin dira, il y a quelque chose qui se passe dans la scène, mais c'est le Saint-Esprit qui n'aime pas ce qui se passe, vraiment. Tandis que le catholicisme, lui, explique ce qui se passe, d'après lui. Ben voilà, il a exopéré l'opérato, il y a transition de substance, etc. Le catholicisme explique, avec des cadres de pensée philosophique d'ailleurs, il explique ce qui se passe dans la scène. Calvin n'explique pas, il se passe quelque chose. Mais le comment, c'est le mystère. Et finalement, nous pourrions dire de Calvin qu'il est le théologien respectueux du mystère et il le caresse toujours le projet d'écrire soit un article, soit un livre, soit au fond une petite brochure, là, de l'édition Philippe. Calvin, théologien du mystère. Si je vois sur votre plume ce titre quelque part, nous nous retrouverons. L'autorité de l'Écriture sainte est l'autorité de son objet. Et l'autorité, c'est la parole de Dieu. Cette parole est attestée par des voix humaines, par des prophètes, par des apôtres, et aussi par l'homme Jésus de Nazareth. Mais comme nous l'indique l'Épître aux Hébreux, Dieu s'y est pris diversement. Mais n'empêche que son autorité de cette Écriture, sa dignité, sa majesté, sont strictement et exclusivement, finalement, comme provenant de la majesté divine. Et ce que nous avons, grâce à la révélation, c'est une parole seigneuriale. Comprenant ainsi l'autorité de l'Écriture, le texte continue. D'autant qu'elle est la règle de toute vérité, contenant tout ce qui est nécessaire pour le service de Dieu et notre salut. Il n'est loisible aux hommes, ni même aux anges, d'y ajouter, diminuer ou changer. D'où il suit que ni l'Antiquité, ni les coutumes, ni la multitude, ni la sagesse humaine, ni les jugements, ni les arrêts, ni les édits, ni les décrets, ni les conciles, ni les visions, ni les miracles ne doivent être opposés à cette Écriture sainte, mais au contraire, toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées selon elle. Remarquez bien que cette énumération contient des possibilités, des phénomènes qui rentrent dans le cadre de l'Église. Toutes ces choses, l'Antiquité, les coutumes, la multitude, la sagesse humaine, etc., toutes ces choses sont des actes, sont des grandeurs, sont même des splendeurs, sont même des choses très imposantes faisant partie de la vie de l'Église. Et évidemment, bien sûr, que nous croyons au miracle. Mais les Pères veulent ici spécifier clairement qu'aucune chose dans la vie de l'Église, quel que soit son nom ou son importance, ne peut être comparée à ce témoignage qui a fondé l'Église, à ce témoignage qui est le témoignage de Dieu lui-même, la Bible. Non pas que les réformés songent à nier l'existence de ce qui est mentionné ici. Naturellement, il y a antiquité. Et naturellement, nos doctrines sont des doctrines qui ont été confessées dans l'Église ancienne, et espérons-le dans l'Église de toujours. Naturellement qu'il y a des coutumes. On aimerait qu'il y ait la multitude. Elle n'était pas animée hier dans le petit temps. La sagesse humaine, combien nous la voudrions. Les jugements, les arrêts, les édits. Et finalement, Calvin lui-même. Ah, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, a joué dans l'Église de Genève, a abondamment travaillé dans cette direction. Il y a eu, il y aura une tradition calvinienne, pourquoi pas. Il y a eu des édits, des arrêts. Il y a toutes sortes de textes qui sont promulgués, soit par les pasteurs de Genève, soit par les magistrats. Il y en a fallu de la sagesse humaine, lorsqu'on est un tout jeune homme, encore boutonneux, pour écrire l'institution de la religion chrétienne. Mais tout ceci, d'après Calvin et les pères de Paris, ne saurait concurrencer l'autorité de l'Écriture. Tout ceci est sous l'Écriture, et non pas au-dessus. Toutes ces choses ne signifient pas, je dirais le biblicisme calvinien, ne signifie pas. Il n'y a que la Bible, pas du tout. Il n'y a pas de bibliolatrie. La Bible, c'est certain, ne peut, mot calvinien, enclore la réalité à laquelle elle se réfère Dieu. L'Écriture ne doit pas être confondu avec Dieu. Et d'ailleurs, Calvin recourt même, parlant de l'écriture, à l'image du miroir. Mais le miroir, ce n'est pas Dieu lui-même, mais un miroir, et donne quand même certaines distorsions. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y a que la Bible. Il y a bien d'autres choses dans la vie de l'Église, naturellement et heureusement. Mais toutes les autres choses restent sous la domination de cette première instance, de cette première autorité. Toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées selon nous. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans cette longue liste ne doit pas avoir l'autorité sur la Bible, mais doit être sous la Bible, et toutes ces choses doivent passer finalement à la barre de l'Écriture sainte. Alors, si on n'est pas d'accord avec ce que je viens de résumer ici, si l'écriture, comme principe exclusif d'autorité, est mise en cause, alors on aboutit à l'illuminisme. Et le génie de Luther et de Calvin a été de dire le catholicisme romain est un illuminisme. Nous avons... Nous avons, dans le catholicisme romain, un illuminisme de type institutionnel. L'écriture sainte est conjuguée avec l'institution ecclésiale. L'écriture sainte est mise au même rang que l'institution ecclésiale qui se résume dans le magistère qui s'arroge un pouvoir sur l'écriture sainte. Avec le catholicisme romain, nous avons une église d'autorité. Et finalement, le catholicisme romain, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il continue à affirmer que, en plus de la Bible, donc il reconnaît normalement l'autorité, eh bien, il y a une Bible continuée dans la tradition ou les traditions de l'Église. Voilà l'illuminisme de type institutionnel qui est d'ailleurs, qui ressemble aussi à l'illuminisme d'un chef de secte qui revendique une autorité semblable. Lorsque j'étais étudiant dans cette faculté ici, j'allais faire le catéchisme, rue-là, et dans le parc Jourdan, alors faire le catéchisme avec deux autres catéchètes, j'ai rencontré une femme qui m'a dit, il est revenu. Ah bon? Jésus. Hein? Voilà, la femme m'a dit ça dans le parc des dents. Remarquez, c'est un lieu où on rencontre tous les hommes, mais là, comme c'était deux jours, on a rencontré une femme. Alors la femme me dit, il est revenu. Qui? Jésus. Hein? Et, ah bon? Et où est-il? Elle me dit, en Avignon. Parce que, écoutez, on va faire un petit quart, on est tous partis. Et D'abord, expliquez-moi pourquoi Avignon et pas Carpentras, pourquoi Avignon et pas Séville. Alors,
merci.
Elle m'a dit, la Bible dit, là où s'assemblent les aigles, il y a le corps. Ça, dans la Bible, il y a des cadavres, des corps, pas chasseux. Et elle m'a dit, voilà, la ville d'Avignon a dans ses armoiries des aigles. Ce qui prouve, c'est le seul endroit où il y a des aigles, etc., dans les armoiries, ce qui prouve que c'est là. Vous l'avez vu, il se porte bien, très bien. Et alors, finalement, nous avons causé. Et elle, je me suis aperçu qu'elle faisait parler Jésus en ouvrant une Bible, mais elle continuait à faire parler Jésus en ouvrant d'autres livres que la Bible. Mais j'ai dit, mais qui sont ces livres? D'où sortent-ils? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et elle m'a dit, ah oui, mais c'est le Christ qui, maintenant, continue à écrire des bouquins. Alors, vous avez votre Bible là, votre Bible seconde, c'est le premier tome. Et il y en a 4 ou 5 autres, alors si vous voulez la suite, c'est là, sous mon bras, etc. Alors, finalement, ça c'est plus ou moins bien terminé, parce que elle voulait entrer en télépathie ou je ne sais pas quoi, alors on l'a un peu rudoyé. Il y avait là un grand type qui était avec moi. J'ai dit, toi qui es grand, te soulève cette femme, assure-toi qu'elle ne nous envoie pas quelques démons en pleine figure. Et finalement, après une prière, tout ça, nous avons fait notre catéchisme. Et alors voilà, ici, c'est les histoires que je viens de résumer, de ce facteur qui aura été le Christ, entre guillemets, de mon père, près d'Avignon. Et bien, c'est ça l'illuminisme. C'est un chef de secte. Il continue la Bible. Il dit, moi je suis le Christ, pas bon. Ben voilà, il continue la Bible. Ouais. Bien l'Église catholique romaine, finalement, d'après Luther et Calvin, ben, c'est un illuminisme qui n'est pas individuel, mais qui est un illuminisme collectif, institutionnel, par le magistère, poursuivant à écrire la Bible. Finalement, le Christ dans l'Église catholique romaine se perd dans la vie de l'Église elle-même, et finalement, on finit par ne plus savoir si le Christ parle dans la Bible exclusivement, ou bien s'il parle ailleurs, et dans des instances qui peuvent avoir finalement l'autorité sur la Bible elle-même. Et il va y avoir aussi, au XVIe siècle, un illuminisme, une autre forme d'illuminisme, après l'illuminisme de type institutionnel, vous aurez l'illuminisme spiritualiste. On pourrait appeler aussi, je n'ai pas encore choisi, l'illuminisme intérieur. Et dans la pénombre d'un mysticisme malsain, on croit avoir des expériences sensationnelles, évidemment des expériences spies, et ces expériences, on barre sur l'écriture sainte. Vous comprenez, on ne peut rien dire si vous dites, mais la Bible dit, le Saint-Esprit dit dans la Bible, puis quelqu'un vous dit, ah oui, mais à moi, le Saint-Esprit dit, c'est difficile. Et là, Calvin va être très sévère contre cet illuminisme-là. Il va dire, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Esprit qui nous rote? Hein? C'est-à-dire, voilà. Alors, il y a l'écriture finit par être subordonnée, l'écriture finit par être subordonnée à des visions, à des prétendues inspirations. Dieu qui donnerait des vérités nouvelles ou secrètes, où l'écriture est subordonnée à des miracles. Eh bien, ici, la confession n'en veut pas. Elle dit, même les miracles, etc., les visions, les décrets, etc., tout ça, ça ne peut être opposé à l'Écriture sainte. Il y a, si vous voulez, aussi, me semble-t-il, après l'illuminisme de type institutionnel, après l'illuminisme de type individuel, spiritualiste, il y a un illuminisme que je qualifierais volontiers de positiviste. Illuminisme positiviste qui est le fruit finalement de la sécularisation. On prétend à une neutralité scientifique chez Jean face à la Bible. Depuis le XVIIIe siècle, on veut refuser, nous dit-on, l'attitude naïve, les deux doigts dans le nez, qui admet que la Bible est digne de confiance. Et c'est naïf, ça. Nous sommes entrés dans l'ère critique, nous dit-on. Nous revendiquons l'attitude de jugement à l'égard de l'Écriture. Évidemment, au nom de la science, l'homme réclame le droit de trier dans les déclarations de la Bible entre ce qui est digne de confiance et ce qui n'est pas. Et derrière cette approche, il y a un présupposé de foi au départ qui gouverne l'optique générale, qui gouverne l'orientation de la recherche. Il y a un présupposé. Et c'est finalement le présupposé humaniste qui veut donner à l'homme le droit de Dieu. Et même chez Karl Barth et dans la néo-orthodoxie, en dépit de l'exaltation de l'autorité biblique, en réaction au libéralisme, il n'y a pas un abandon total de cette attitude critique. On nous dira que l'écriture, en elle-même, est marquée par l'erreur. Et on nous dira que quand la parole de Dieu me saisit, ou quand, vous savez, ça c'est le baptisme, ou quand Dieu le veut, quand il le veut, ou il le veut, eh bien, il y a une illumination de l'instant. Il y a un éblouissement de l'instant, et l'écriture, qui n'est pas du tout parole de Dieu, devient parole de Dieu pour moi. Bien, ceci est extrêmement dangereux, et ceci entrerait dans le cadre de l'illuminisme. L'Église ne peut mettre sa confiance en elle-même ou dans une autre autorité. Elle ne peut placer sa confiance que dans la parole de Dieu. Si l'enseignement de l'Église doit être continuellement confronté avec l'Écriture, cela ne signifie pas que l'on ne doit pas être attentif à l'effort d'interprétation et de compréhension et d'être attentif à ce qu'ont dit les pères de l'Église et les pères de la Réformation. Simplement, l'autorité de tous ces gens est relative. Et c'est ainsi qu'on va retrouver dans la confession de foi des signes multiples de ce respect dans les références répétées aux différents symboles de l'Église ancienne, ainsi qu'à des pères comme Athanase, Ambroise de Milan, Hilaire de Poitiers. Et ici, dans le présent article, vous avez le symbole des apôtres de Nicée et d'Athanase. Mais les pères de la Réforme disent « Nous admettons ces symboles ». Mais ils précisent bien parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu. Voilà.